Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous avez entendu ce signal et effectivement, c'est le moment d'embarquer sur Europe 1 avec Franck Ferrand à bord d'un des immenses paquebots qui autrefois était le seul moyen de voyager confortablement. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Confortablement, je dirais même, en tout cas pour les passagers de première classe, luxueusement, tant il y avait de splendeur accumulée sur ces géants des mers et notamment ces fleurons de la French Line que furent Normandie et France.
Et le paquebot France qui, en ce moment même, fait l'objet d'une exposition au musée de la Marine.
Exactement, on y reviendra tout à l'heure sur cette expo anniversaire. Pour le moment, j'aimerais vous raconter l'épopée de ces deux grands navires, les deux plus grands que la France ait jamais possédés.
Alors n'hésitez pas à poser vos questions par internet à l'adresse www.europe1.fr mais aussi par l'intermédiaire de Facebook sur la page de l'émission Au cœur de l'histoire.
Allons-y, larguons les amarres.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'est le plus fabuleux vaisseau de tous les temps, un bâtiment gigantesque que personne jamais n'oubliera. Normandie, comme disent les puristes, nous l'appellerons le Normandie en élidant le mot paquebot. Le Normandie donc fait partie des machines à rêve. La presse de l'époque ne tarit pas d'éloges pour le géant des mers, la cathédrale de la marine marchande, le monstre d'acier, le vaisseau de lumière, la nouvelle merveille du monde. On n'a pas fini d'en citer les mensurations de ce paquebot. Plus de 300 mètres de long, c'est l'ensemble de la façade du château de Versailles. Plus de 36 mètres dans sa plus grande largeur et 40 mètres de haut sans les cheminées. C'est plus haut que l'Arc de Triomphe. 84 000 tonnes d'acier, c'est 7 fois la tour Eiffel. 160 000 chevaux qui offrent aisément une vitesse avoisinant les 30 nœuds. 11 ponts, une salle à manger de première classe de 86 mètres de long, c'est plus que la Galerie des Glaces, plus de 2000 passagers, plus de 1300 membres d'équipage, etc. etc. Mais au-delà des chiffres, ce super navire est un symbole. Il est non seulement la plus grande réalisation de la France des années 30, mais sa création la plus emblématique. Tout y est, la force et l'isolement, le panache et le cache-misère, la modernité, la nostalgie, le terroir et l'exotisme. Des ambitions qu'une partie de la presse considère comme trop élevées pour les moyens réels du pays à l'époque. Déjà, vous voyez ce double discours très français. Dans son discours d'inauguration, le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, a posé la question, je le cite, « Faudra-t-il nous faire un grief d'avoir vu trop grand, alors que si souvent, et avec raison, on nous a adressé le reproche inverse ?» Alors imaginez que nous faisons partie des privilégiés qui disposent d'un très onéreux billet de première classe pour une traversée transatlantique sur ce fleuron de la French Line. Le rêve commence très en amont. Il commence à Paris, gare Saint-Lazare, quand vous montez dans un train spécial aux couleurs du paquebot et qui vous met déjà dans l'ambiance jusqu'à la gare maritime du Havre, ce véritable chef-d'œuvre d'ergonomie et d'architecture. C'est une atmosphère très spéciale que celle de la French Line, vous savez, une atmosphère de rigueur, de luxe, d'excitation devant le voyage, de fête bien entendu, de performance et par-dessus tout, ça c'est la notion souveraine, d'élégance. L'embarquement est un grand moment. Vous êtes là, sur le quai, vous levez les yeux et vous voyez cette époustouflante masse d'acier, ça donne littéralement le tournis. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment la tête qui tourne. Et là, un coup de trompe. On peut refaire un coup de trompe, Guillaume, celui de tout à l'heure. Allons-y pour là. Voilà.
On y est là.
Il faut imaginer que la corne de brume de Normandie est beaucoup plus assourdissante que ça. D'ailleurs, la plupart des gens, que ce soit les passagers, le personnel, les accompagnateurs, on se bouche les oreilles, hein, tellement c'est puissant. Mais ça a été fait exprès pour impressionner. Ça fait partie de toute la mise en scène, si vous voulez. Et puis, imperceptiblement, le géant se met en mouvement. C'est le quai qu'on voit s'éloigner comme si une partie de la ville se détachait de la côte. Le plus impressionnant, c'est la différence d'échelle entre entre la masse de Normandie et puis toutes les squads des remorqueurs, vous savez, qui sont là autour, qui l'aident, qui l'escortent, qui l'accompagnent jusqu'au large. Eux, ils ont l'air complètement tout à fait minuscules à côté. Je cite Walt Whitman. « Le navire, noble et beau, avec toutes ses richesses précieuses, prend le large, brillante et sûre. » Alors c'est le moment d'aller un peu explorer cette ville flottante avec ses kilomètres de ponts, de lisses, de coursives, de promenoirs, avec ses escaliers monumentaux, ses ascenseurs, ses salons, salles à manger, ses verrières, son jardin d'hiver, et puis l'alignement infini des portes des cabines, en acajou s'il vous plaît, ou en macassar pour les premières classes. Je cite Paul Claudel. Et un bateau, avec tous ses compartiments, avec toutes ses portes que l'on peut ouvrir et fermer, mais quel beau joujou! C'est dans Partage de Midi. Vous avez bien compris que la splendeur est réservée aux premières classes, parce que si par malheur vous deviez descendre en troisième, alors là, vous comprendriez ce que c'est que la promiscuité, les odeurs d'huile et surtout, ce qui sera toujours le véritable fléau de Normandie auquel aucun ingénieur n'apportera de remède, ces espèces de vibrations qui transforment la traversée en une véritable épreuve pour les nerfs. Mais fi de ces ombres au tableau, nous, si vous voulez bien, Julia, on va rester dans la lumière des premières classes.
J'accepte.
Ça vous convient, ça?
Ça me convient bien.
Alors là, je peux vous dire que vos yeux ne sont pas assez grands pour admirer les portes de bronze du fumoir, ornées de grands médaillons représentant les villes normandes. Après tout, c'est le thème du paquebot. Dans le grand salon décoré par Leleu, au volume élancé, pour ne pas dire écrasant, on est dans les années 30, vous avez des glaces gravées qui représentent la naissance d'Aphrodite, le char de Thétis, le char de Poséidon, l'enlèvement d'Europe, toutes sortes de thèmes aquatiques et marins. Rien n'a été laissé au hasard. Le décor des tapis très épais répond à celui des tentures. La moindre applique a été confiée à un artiste de renom. Ces salons à perte de vue sont une sorte de super écrin pour une infinité de toiles de maître, d'objets d'art en bronze, de vasques en cristal grands comme deux hommes. Le mobilier de bois précieux garni d'étoffes éditées exprès représente ce que la période art déco a produit de plus raffiné. Et je ne vous dis rien, des mosaïques de la grande piscine couverte, des volières immenses du jardin d'hiver peuplées de perroquets multicolores, des chaises longues futuristes du Sun Deck qui sera le plus vaste qu'on ait jamais vu. Et dans ce décor, quelle élégance parmi les convives! On ne s'habille pas n'importe comment sur Normandie, évidemment, on fait assaut. Ces dames arrivent avec 3, 4, 5 mâles, elles changent de tenue 5 et 6 fois par jour. Quelle joie de vivre et de profiter de ce temps de repos forcé qu'était une grande traversée transatlantique. Ma grand-mère m'avait offert un menu de Normandie qui est daté du 19 novembre 1938 et j'ai passé des heures dans mon adolescence à rêver sur cette grande feuille datée du jour où Marlène Dietrich était à bord, s'il vous plaît. Parce qu'on a plusieurs photos d'elle dans la suite Rouen qui sont datées de ce jour-là, 19 novembre 1938. Vous vous doutez bien que tout ce que la société compte de brillants des deux côtés de l'Atlantique se devait de voyager sur Normandie. Évidemment, Cary Grant, James Stewart, mais aussi Jules Romain ou Antoine de Saint-Exupéry. C'était ce qu'on appelle un must. Le commissaire de bord n'était autre que le célèbre comte de Nieuwenhove qui jouait les amphitryons avec un art digne des plus grands restaurants ou palaces. Je cite Paul Morand qui était littéralement amoureux de Normandie. « Quelle est douce la route d'Amérique, écrit Paul Morand, même défoncée avec ses cavités de 18 mètres et ses édredons percés par où sort la plume des vagues. Douce route, mais courte. » Car Normandie, et c'était sa raison d'être, est malgré son immensité le paquebot le plus rapide du monde. Dès sa première traversée, il explose les records avec une moyenne de 29 nœuds 94, ce qui lui vaut tout de suite le ruban bleu du navire le plus rapide. La guerre est ouverte dès lors entre la Transat, c'est-à-dire la Compagnie Générale Transatlantique française, et la Cunard britannique, qui, avec Queen Mary, possède également à l'époque un vaisseau très rapide. Son record, Normandie l'effectuera lors de sa 33e traversée avec une vitesse moyenne, tenez-vous bien, de 30 nœuds 35, avec une pointe même à 32 nœuds 30, ce qui avoisine les 60 km/h à pleine vitesse, à plein régime. À l'époque, on n'aurait jamais cru qu'il était possible de faire aller une aussi grande masse à une telle vitesse.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Peter. Peter, komm zu mir zurück. Peter, Peter, warst mein bestes Stück. Peter, Peter, ich war so gemein. Später, später sieht man erst alles sein.
Vous nous en parliez tout à l'heure, Marlène Dietrich sur Europe 1.
Peter. À New York, l'entrée de Normandie dans le port de Manhattan est toujours considérée comme un événement. La liesse des premières arrivées en fanfare ne s'est finalement jamais démentie. Et alors, il y a une tradition qui va s'instaurer très vite, c'est que les soirs où le paquebot Star doit repartir, il y a toujours une grande soirée à bord. Et là, se bouscule le tout New York. Les cartons d'admission se vendent à des prix fous. Le départ est toujours prévu à minuit, mais il n'est pas rare qu'il faille attendre une heure, voire une heure et demie du matin pour que les derniers fêtards et pu regagner le quai. Il est même arrivé qu'on doive en raccompagner à bord des remorqueurs parce qu'ils étaient carrément partis avec le bateau. Quelle fête vraiment que Normandie...
Pas évident à dire.
Mais non, ça ne pouvait pas durer quand survient la guerre. En septembre 1939, la Transat juge plus prudent de laisser Normandie à l'abri dans le port de New York. Il est encore à quai, au pire 88, quand le Queen Mary le rejoint le lundi 4 septembre 39. Il est lui-même bondé de passagers qui fuient l'Europe en guerre. On s'est entassé partout sur Queen Mary et c'est la première fois que ces deux navires, les deux plus grands paquebots du monde, se trouvent comme ça, quai à quai, côte à côte. C'est un spectacle fascinant pour les New-Yorkais. Les mois passent, la France est envahie, la guerre se généralise. Et le 11 décembre 1941, ce sont bien sûr les États-Unis qui entrent en guerre à leur tour. Et comme le gouvernement français officiel de l'époque, c'est le gouvernement de Vichy qui collabore avec l'ennemi, eh bien dans les ports américains, les navires français sont saisis. L'US Navy réquisitionne donc Normandie le 16 décembre à 14h. Alors qu'est-ce que la marine américaine va bien pouvoir faire de ce géant ? Ben, un transporteur de troupes, évidemment. Le vaisseau est rebaptisé Lafayette, ça c'est peut-être une petite concession à ses origines, et un plan de travaux d'aménagement est établi pour 90 jours. Seulement voilà, le 9 février 1942, un peu après 2h30 de l'après-midi, le feu se déclare à bord. Bientôt, c'est un gigantesque panache de fumée qui se dégage de l'ancien paquebot Normandie, copieusement mais vainement arrosé par les lances de 36 pompes automobiles et de 3 bateaux-pompes. On va envoyer 6000 tonnes d'eau, les déverser comme ça sur le navire, qui n'a pas été prévu évidemment pour ça, ce qui fait que le bâtiment prend une gîte inquiétante à bâbord. À force d'avoir chargé le bateau d'eau, bah évidemment il penche. Quoi. Normandie penche, il tire d'un poids terrible sur ses amarres. Ça devait être un spectacle, ça, tout à fait effrayant. Et dans la nuit du 9 au 10 février, dans un mouvement lent, irréversible et monstrueux, l'énorme masse, la montagne d'acier s'incline et bascule tout à fait pour se coucher sur son flanc bâbord. On dirait comme ça une énorme baleine échouée, humiliée, en train d'agoniser. Vous savez que Alfred Hitchcock a filmé cette scène terrible. Il s'en est servi dans son film Cinquième colonne. Il a intégré cette histoire à son scénario. Alors le film lui-même est loin d'être un chef-d'œuvre, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Mais rien que pour ce document inouï, montrant Normandie couchée sur le flanc dans le port de New York, il faut absolument voir ça. Le 3 novembre, la carcasse du navire, renflouée, va être remorquée jusqu'à Brooklyn. Les Américains ont pris la peine d'en informer l'ancien commandant du navire qui avait un appartement à New York. Et voilà ce qu'il raconte. Il dit « Je suis monté sur la terrasse du building et j'ai vu passer mon malheureux navire, rasé comme un ponton, sans mât ni cheminée, entouré de remorqueurs qui le tiraient et le poussaient comme un prisonnier, mais encore imposant, majestueux, plein de noblesse, inspirant un certain respect et donnant l'impression d'un champion vaincu par le sort et la bêtise humaine, mais pas abattu. » Toutes les hypothèses ont été émises à propos de l'incendie de Normandie, dont il semblerait qu'il n'ait pas une origine fortuite ou spontanée. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un coup des services secrets nazis ou bien d'agents dormants de Vichy qui ne voulaient pas que les États-Unis récupèrent le bateau ou encore de la mafia américaine qui elle-même aurait œuvré pour des concurrents privés de la French Line, voire tout simplement pour des intérêts d'État? Je me suis pas mal penché sur cette question naguère, mais je vous avoue que je ne suis toujours pas parvenu à me forger une conviction très étayée. En France, en dépit de l'occupation, la nouvelle a vite fait le tour du pays. Or, elle fait l'effet d'une bombe. Elle alimente la propagande anti-américaine de la presse de Vichy. « L'Amérique nous a brûlé Normandie », titrent les journaux. Et au-delà de ces considérations partisanes, imaginez l'indignation sincère, le traumatisme des Français qui apprennent que le symbole vivant de leur récente puissance et de leur liberté perdue, l'emblème de la grandeur nationale, a été brûlé, rasé, découpé au chalut. L'humour est vendu au prix de la ferraille. Quant au trésor artistique qui faisait hier encore la gloire de Normandie, eh bien, il n'était plus à bord, heureusement, au moment de l'incendie. Ce qui fait que la plupart ont pu être dispersés plus tard aux enchères. La France en récupérera quelques-uns, comme les superbes panneaux du fumoir, c'est les lacs de Dunant, que vous pouvez voir aujourd'hui encore au Palais de Tokyo, à Paris. Mais l'essentiel va se retrouver dans le décor des bars, des restaurants, des boîtes de nuit de New York. Certains sont encore présents. Si bien qu'à la Libération, la France se retrouve dépourvue de grands navires de croisière. Le paquebot Île-de-France, qui avait été lancé en 26 et qui vient de servir de transport de troupes, est alors à la refonte. On a reçu des Allemands le Bremen en dommage de guerre. Seulement, sous l'effet d'une tempête, il a chassé sur ses ancres et il a heurté une épave qui d'ailleurs n'est autre que celle d'un autre paquebot célèbre, le grand frère de Normandie qui s'appelait Paris. Bremen a coulé. C'est bien simple, face aux Anglais et à leurs deux magnifiques Queen Mary et Queen Elizabeth II, les Français n'ont plus à opposer comme transatlantique que le petit De Grasse avec ses 1000 passagers et encore au maximum. Il fallait faire quelque chose, et bien cette chose, ce sera évidemment le paquebot France.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Et aujourd'hui sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire des géants des mers, les paquebots de la French Line, Franck.
Alors en août 1946, une grande réunion est organisée au ministère des Transports, boulevard Saint-Germain. Monsieur Marie, qui est le président de la Compagnie Générale Transatlantique, explique au ministre qu'il va falloir un nouveau grand liner à la France. Seulement autour de la table, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Notamment le directeur d'Air France, qui fait remarquer que Normandie a coûté 1 milliard de francs en 1935, soit 30 milliards de francs en 1946, et que l'avion, infiniment moins coûteux à réaliser, attire un nombre sans cesse croissant de voyageurs. Cette observation va d'ailleurs se vérifier par la suite, puisque pour les liaisons transatlantiques, le nombre de passagers par air va dépasser celui des passagers par mer dès 1958. Il n'empêche, la construction du nouveau super paquebot français a été décidé en 1956 et le 5 octobre 57 dans la cale numéro 1 des célèbres chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, on pose la première tôle d'un vaisseau de commerce qui devait s'appeler au départ Bretagne. On avait juste avant la guerre fait le projet de ce frère jumeau de Normandie, donc on s'est dit bon, on va l'appeler Bretagne. Ou d'autres voulaient l'appeler Pax parce qu'on venait de faire la paix. Et pourquoi pas Picardie ou Provence ? Finalement, pour mettre tout le monde d'accord, ce sera tout simplement France. Naturellement, comme d'habitude, le berceau du nouvel enfant de la marine marchande française, ce sont ces extraordinaires chantiers de l'Atlantique qui, une fois encore, vont accomplir des prouesses. Et le 11 mai 1960, la déesse noire du général de Gaulle, entourée d'un peloton motocycliste, fait son entrée sur le chantier pour la mise à l'eau du nouveau mastodonte. Je crois que, sans exagérer, on peut dater de ce jour précisément le retour de la fierté nationale dans un pays qui, quand même, avait été mis à genoux par la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose d'écouter une archive Europe 1, c'est le général de Gaulle au moment de l'inauguration donc, du paquebot.
Et maintenant que France s'achève et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir, vive la France !
Sur un plan technique, le paquebot était la chose la plus moderne qu'on ait jamais faite, tout simplement. Alors j'ai renoncé, j'ai là sous les yeux tous les chiffres à vous citer, c'est extravagant. Entre nous soit dit, c'est tout petit peu moins que Normandie, sauf la longueur. On l'a fait exprès 2 mètres plus grand que Normandie, pour dire quand même que ce serait le plus grand jamais construit. Sur un plan esthétique, alors là, la comparaison avec les grands paquebots d'avant-guerre, le Paris, l'Île-de-France et évidemment Normandie, n'est pas vraiment favorable au Nouveau France. Je dis nouveau parce qu'en 1912, un premier paquebot France avait déjà déjà eu son heure de gloire. Cette fois, pour reprendre l'expression de Michel Morte, l'amoureux des paquebots, l'on tombait de l'alique en formica, dit-il. Et il ajoute, après avoir participé au voyage inaugural, ne retrouvant pas le luxe désuet, voire les incommodités que j'avais tant aimées sur les grands paquebots d'autrefois, je ne pus devant ce triomphe du toc, du cru, du précaire, que me dire comme Zazie, j'ai vieilli. Reste le tour de force technologique, évidemment. Sur les mers, France n'a quasiment pas de concurrents, seulement il en a dans les airs. Alors que le trafic maritime français était d'1 million de passagers annuels en 56, il n'est déjà plus que de 350 000 en 69. Il va tomber à moins de 150 000 en 73. Alors que dans le même temps, le trafic aérien, lui, est passé de 835 000 personnes à 12 millions. Vous voyez, donc c'est une inversion de proportion, c'est évident. Ce sont des réalités qui entraînent évidemment des coupes claires dans les budgets, d'où un mécontentement, une ambiance qui se dégrade à bord, des grèves à répétition des salariés, une gestion sociale difficile et le coup de grâce pour ce paquebot, dont la brillante façade cache de moins en moins bien les innombrables difficultés, c'est en 1973, évidemment, le premier choc pétrolier. Il faut quand même vous dire qu'avec ses 160 000 chevaux, le paquebot engloutit, tenez-vous bien, plus de 600 tonnes de fioul par jour. Je dis bien 600 tonnes. Vous comprenez pourquoi les billets étaient un peu chers. À l'été 1974, l'esprit gestionnaire va l'emporter sur l'esprit de panache. Mais c'était sans compter avec la réaction des équipages. Le 11 septembre 1974, à 21h47, au large de Sainte-Adresse, hein, c'est la pointe du Havre, le navire est littéralement pris en otage. France est occupée. Titre la presse à propos de cette espèce de mutinerie des temps modernes. L'officier de quart a jeté l'ancre dans le chenal. Vous aurez compris bien sûr qu'il ne s'agit que d'un acte désespéré, un dernier sursaut sans véritable lendemain. Le sort du plus grand paquebot du monde est déjà scellé. Le voilà arrimé sur le quai de l'oubli. Dans l'arrière-port du Havre, je me souviens de l'avoir vu là-bas à l'époque. En 77, après 3 ans et demi d'abandon, le grand vaisseau est racheté par un célèbre milliardaire saoudien, Akram Ojeh, pour 80 millions de francs seulement, on a envie de dire. Le nouveau propriétaire a des idées pour le France. Il projette d'en faire un casino à Beyrouth. Seulement à Beyrouth, à ce moment-là, c'est la guerre du Liban. Alors on pense en faire à un moment un conservatoire flottant du patrimoine français. C'était une belle idée, ça. Une sorte d'ambassadeur itinérant du goût et du savoir-faire de la France. Sauf que la belle idée, là encore, fait long feu. Et finalement, le 19 août 1979, le Saoudien revend l'immense paquebot au Norvégien Knut Kloster, qui le transforme, vous savez, de fond en comble pour en faire un bateau de croisière. Norway, c'est son nouveau nom. Il ira faire des ronds dans l'eau du côté des Caraïbes. Vous vous rappelez la célèbre chanson de Michel Sardou qui a fait frissonner toute une génération. Aujourd'hui, l'ex-paquebot France, il faut le savoir, n'est plus. Il a été entièrement dépecé, démantelé pendant plus de 2 ans en Inde sur le chantier d'Alan. 2 ans, entre parenthèses, pour venir à bout d'un pareil mastodonte. Et aujourd'hui, pour se souvenir de France, eh bien, il reste quelques beaux livres, évidemment, ainsi qu'une exposition qui s'est ouverte au musée de la Marine et qui se tient jusqu'au 23 octobre. Prochain. Nous vous y emmènerons dans cette exposition dans quelques instants avec un de ses commissaires, juste après le flash de 14h. Et puis, avec mon invité dans ce studio, nous reviendrons avec bonheur, avec une délectation empreinte de nostalgie sur l'âge d'or de ces grands paquebots.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Gérard Piouffre nous a rejoint, il est historien et modéliste de marine, auteur de plusieurs livres d'histoire maritime, notamment L'âge d'or des voyages en paquebot, aux éditions du Chêne, Franck.
Oui, un très joli petit livre, je dis petit parce que c'est un petit format, mais alors c'est un trésor, comme tous les livres qui sont maquettés par Marc Walter. D'ailleurs, j'en profite pour citer Marc Walter, qui est un grand maquettiste. Merci beaucoup Gérard Piouffre d'être des nôtres, vous êtes sans doute un des plus grands, sinon le plus grand connaisseur de cette période et de cet univers extraordinaire des paquebots. Vous avez visité, j'imagine, l'exposition France au Musée de la Marine.
Bien sûr, dès le premier jour.
Dès le premier jour. Alors, c'est une véritable immersion, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, que nous propose.
Le Musée national de la Marine a l'habitude de faire de très très belles expositions. Et bien là, ils se sont surpassés. Ils se sont surpassés. On retrouve tout à fait cette ambiance des Trente Glorieuses, parce qu'à travers le paquebot France, c'est ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que au moment où on lançait le paquebot France, au moment à ce moment-là, il y avait la DS19 qui arrivait, il y avait tout un tas de la télévision arrivait dans les foyers, il y a tout un tas d'innovations.
Ah, on était plein d'enthousiasme.
Absolument,
et d'espoir.
C'était formidable.
On le sent dans l'exposition, notamment parce qu'il y a toute la partie historique, bien entendu, et artistique qui occupe
bien
plus
sûr,
de la moitié du
sûr.
Parcours. C'est important, même si bon, c'est vrai que moi, par goût, je suis moins sensible peut-être à ces décors-là qu'à ce qu'on trouvait sur Normandie dans les années 30. Mais en même temps, on finit par devenir très accro aussi de ce style hein, des années 60 qui est en pleine, qui est en vogue en ce moment. Et puis, il y a notamment vers la fin du parcours toute une évocation des souvenirs, des mémorabilia de la mythologie France, parce que c'est un paquebot qui, en tout cas dans l'esprit des Français, a vécu au moins autant après sa vente qu'avant.
Tout à fait, je crois que c'est vraiment quelque chose qui appartenait à la France. Les gens étaient tout à fait fans de ce bateau, mais ça, c'est vrai que ça nous rappelle les souvenirs d'une époque très heureuse.
Oui,
c'était vraiment tout était possible à
et
cette époque-là.
Et très coloré.
Maintenant, le mobilier, alors c'est vrai que ça fait un petit peu mobilier d'hôpital ou mobilier de cantine. Mais
il y a des gens qui vont pas être très contents, vous entendant. Notamment le préfacier du très bel ouvrage du catalogue de l'exposition.
Mais ça revient à la mode.
Que
hein.
Philippe Stark qui nous dit qu'au contraire, on est sans doute là en présence de sommets. Nous sommes en ligne avec Frédéric Olivier, pardon, grand spécialiste de ces questions. Aussi, et l'un des commissaires de l'exposition. Bonjour Frédéric Olivier.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup de nous avoir pris au téléphone. Vous êtes donc, vous avez participé, vous, à cette aventure de la mémoire France au musée de la Marine.
Alors j'y ai été associé en réalité, hein,
oui.
plus qu'un commissaire, j'étais l'un des conseillers des commissaires de l'exposition, ami en particulier d'Emeric Perrois. Qui a joué un grand rôle dans cette affaire. Et ce que dit Gérard Piouf est exact. Enfin, France nous ramène à une époque heureuse. Mais France témoigne aussi d'une époque où les modes de vie sont entrés dans l'ère industrielle.
C'est ça.
Et je crois que ça se sent très bien.
Exactement.
Dans les choix qui ont été faits en matière de mobilier. Le primat du mobilier métallique, de matériaux comme le formica, est assez symptomatique, à mon avis.
Alors néanmoins, en dépit de ce côté un petit peu moins luxueux, on s'amusait beaucoup hein, sur France, il faut le dire.
On s'amusait à bord, effectivement. Je crois que tous ceux qui ont navigué sur ce navire le disent. J'en discutais encore tout récemment avec ma présidente, Anne Dornano, qui a été une grande voyageuse.
Bien sûr, oui.
Qui a voyagé très souvent sur l'Atlantique Nord, à bord des paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique. Elle raconte volontiers comment ces voyages étaient finalement une fête de 5 jours.
Oui, alors 5 jours, c'était peu de temps pour effectuer une telle traversée. Et en même temps, ça permettait de larguer les amarres, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Ça permettait de couper avec le rythme habituel. Un paquebot, c'est finalement une petite république du savoir-vivre et du bon temps. Les visiteurs qui sont au musée de la Marine, les gens qui visitent France, viennent par nostalgie, selon vous, d'abord? Ou est-ce que c'est une curiosité pour la prouesse?
D'abord, les gens viennent nombreux. C'est l'une des très bonnes surprises de l'exposition qui, dans ses bons jours, les samedis et les dimanches, reçoit 1500 à 2000 visiteurs.
Hein,
ce qui est énorme. L'exposition fait un tabac, il faut le dire. Alors, pour quelles raisons précises viennent-ils? Je ne sais pas très bien. Sans doute un peu par nostalgie, sans doute un peu pour découvrir ce qu'étaient ces grands navires, parce que ces dernières années, il y a eu assez peu de rendez-vous, finalement, ou de rendez-vous majeurs, hein, autour des grands paquebots, des arts décoratifs à bord des grands paquebots, des modes de vie sur ces navires, il y a eu des rendez-vous comme la vente arcuriale autour du France il y a 2 ans,
oui.
Qui a suscité une certaine curiosité. Je crois que maintenant les gens veulent venir voir ce qu'était réellement ce navire-là. J'espère en tout
ou
cas.
Ou revoir
que...
pour certains, car il y a forcément des visiteurs qui ont bien connu le paquebot, ça c'est certain.
Mais
qu'ils aient été dans le personnel ou dans les passagers du reste.
Ce que j'espère quand même, c'est que l'exposition attire des nouveaux publics.
C'est ça?
Ça, c'est un de mes grands espoirs.
Est-ce qu'on peut espérer qu'elle donne naissance à un troisième France, puisqu'il y a ce projet, le nouveau France?
Oui, je pense que le projet France, Nouveau France, a de bonnes chances de voir le jour.
Vous croyez, parce que ça oui. coûte quand même 300 millions d'euros, cette plaisanterie.
Oui, mais vous savez qu'il existe à l'heure actuelle plus de grands paquebots qu'à aucune autre,
oui, c'est vrai, bien
qu'à
sûr,
aucune autre
oui.
époque. Et que, d'une façon générale, les très grands paquebots actuels, les navires qui mesurent 300 mètres de long, accueillent 3000 ou 4000 passagers, sont des navires qui valent entre 700 millions et 1 milliard d'euros.
Oui, donc hein. après tout.
Et donc le projet de Nouveau France, par comparaison avec les géants qu'on voit aujourd'hui, est finalement un navire de taille mesurée, qui innove par son design.
Donc on pourrait imaginer un premier France en 1912, un deuxième en 1960 et un troisième à l'horizon 2015.
C'est bien possible, oui.
Bah,
en tout cas, c'est pas du tout une chimère, à mon avis.
Eh bien, tant mieux. Espérons, croisons les doigts et faisons ce qu'il faut pour. Merci beaucoup, Frédéric Olivier. Et j'encourage donc nos auditeurs à se rendre encore plus nombreux au Musée de la Marine, dans cet endroit qui, du reste, est sublime,
magnifique.
Pour visiter cette exposition consacrée au paquebot France.
Les grands paquebots qui s'estompent ont le chalumeau sur la tempe. Les brimes sont des tricheurs, ils volent le temps et les tiédeurs des nuits d'amour pour la mer.
Les grands paquebots qui s'estompent, Alain Souchon sur Europe 1, Franck.
Le titre est aussi beau que les paroles. C'est pas tout à fait vrai que les grands paquebots n'existent plus. À la toute fin de cette émission, si on a le temps, on dira un mot de ce revival, hein, de ce renouveau extraordinaire que connaissent aujourd'hui les croisières. Alors, évidemment, ce sont plus les grands paquebots transatlantiques pour l'essentiel, mais c'est plutôt des navires de plaisance et de vacances et de distraction. Mais ça fait partie aussi.
Tout à fait, mais certains donnent des clins d'œil.
C'est ça, ils évoquent.
Des clins d'œil, plus exactement, ces anciens paquebots.
Ce qu'il faut dire, Gérard Piouffre, c'est qu'au tout début des paquebots, faut que vous nous disiez quand ça naît tout ça, mais à la naissance des paquebots, il y a une nécessité qui n'est d'ailleurs pas seulement une nécessité de voyage, qui est une nécessité de transport de courrier.
Absolument. On peut mesurer l'activité économique des nations au volume de courrier échangé entre donc deux pays. À partir de là, dès qu'on commence à avoir une mondialisation, une sorte de mondialisation, il est essentiel de transporter du courrier et de transporter du courrier très rapidement. Les paquebots. Paquebot, d'ailleurs, le terme, ça vient de packet boat,
ça,
anglais,
oui.
le bateau qui transporte des paquets.
Paquet, oui.
Et on admet assez rapidement, un petit peu avant la Première Guerre mondiale, on admet qu'il faut que pour être un paquebot poste, eh bien, il faut pouvoir filer 16 nœuds. En dessous, ça peut se faire s'il n'y a pas de concurrence, mais sur l'Atlantique Nord, on demande à ce que ces paquebots filent au moins 16 nœuds. Nous, on appelle ça des paquebots.
16 nœuds, ça fait à peu près 28 km, 30 km heure.
Oui, en gros, on multiplie par deux, c'est plus facile, puis on retranche un petit peu. Donc, il faut que ces paquebots filent à 16 nœuds. En France, on appelle ça des paquebots poste, et les Anglais, eux, bien mettent devant le nom de leur paquebot, ils mettent les lettres RMS, qui signifie Royal Mail Steamer.
Donc c'est bien mail, hein, c'est bien le courrier qui compte
C'est le courrier qui compte énormément.
D'où le nom du reste des grandes compagnies, je pense aux messageries maritimes, par
Tout
exemple.
Tout à fait, on envoie, les messageries maritimes sont plutôt orientées donc, vers l'Extrême-Orient, et là où on a des colonies, où il est important d'avoir des échanges de lettres. On a également les lignes d'Amérique Sud, qui sont très, très importantes. Mais alors là, malheureusement, on va mettre un temps fou pour relier Le Havre à Buenos Aires. Et l'avion.
À peu près. Alors déjà, les premiers paquebots étaient des paquebots à voile.
Alors les premiers paquebots, oui, sont des paquebots à voile. Bon, très rapidement, on passe aux paquebots à vapeur, puisque la vapeur arrive dans les années 1830. Le problème, les premières machines à vapeur à bord des paquebots, mais également à bord des trains, sont très gourmandes en charbon. On va avoir ensuite des chaudières qu'on va perfectionner. Et l'ultime...
On pense à Elena Veva de Fellini, là, hein, avec ses énormes chaudières qui dévorent littéralement les humains.
Et l'invention qui permettra vraiment le développement des grands paquebots, bien, ça va être la turbine. Ça va être la turbine qui est inventée par un monsieur qui s'appelle Parsons et qui va vraiment être une révolution, bon, qui va permettre d'avoir des...
On est à la fin du 19e.
On est à l'extrême fin du 19e. Et là, eh bien, on va pouvoir avoir des... Donc des paquebots qui vont placer New York à 5 jours, à un peu plus de 5 jours du Havre, et puis bientôt moins de 5 jours.
D'où est venue cette idée de faire des paquebots toujours plus grands, toujours plus grands? C'était pour des raisons de rentabilité commerciale?
Pour des raisons de rentabilité, oui. D'une part, et d'autre part, vous avez, si vous avez un rapport longueur-largeur intéressant, vous allez plus vite.
Oui. Alors, les grandes compagnies sont essentiellement britanniques, françaises, allemandes aussi.
Allemandes et italiennes. Mais la France et l'Italie, c'est dans une moindre mesure. Pourquoi? Parce que ce qui est rentable pour les grandes compagnies, ça n'est pas tant les passagers de première classe ou de deuxième classe. Alors, effectivement, ils payent très cher leurs billets, mais on met beaucoup de personnel à leur disposition, ce qui fait que c'est moyennement rentable. La rentabilité, elle est assurée par les passagers de troisième classe ou d'entrepont, si vous préférez.
Mais oui. Les fameux émigrants. En fait.
Les émigrants, oui, c'est l'époque où la vieille Europe a trop de bouches à nourrir et où la jeune Amérique manque de bras. Donc, eh bien, on envoie tous ces gens-là en Amérique. Certains font fortune, assez peu, mais tout le monde a cet espoir.
Nous avons beaucoup, puisque j'ai axé mon récit sur le double destin de Normandie et France, nous avons beaucoup parlé des transatlantiques et des lignes d'Amérique, mais le grand trajet mythique par excellence dans les années 1920, ça reste évidemment l'Extrême-Orient. Donc on part de Marseille, on passe par le canal de Suez, évidemment, on fait le tour du continent indien et l'on s'en va comme ça jusqu'en Indochine. Hein, c'est...
Alors là, on est en concurrence, c'est les messageries maritimes qui sont les premières pour la France sur ces trajets et qui sont en concurrence avec une compagnie anglaise, la P&O, qui pendant un moment dans les années 20, si ma mémoire est bonne, ont eu un projet tout à fait extraordinaire de paquebot porte-avions. C'est-à-dire d'un porte-avions civil, alors qui aurait, et là on revient toujours à la poste, qui aurait permis de desservir, lorsque le bateau arrivait à travers Gibraltar, eh bien vous desserviez énormément de villes à qui vous apportiez du courrier.
Tout ça à mettre évidemment en relation avec l'extension des empires coloniaux à cette époque.
Ah
alors,
bien sûr.
J'ai parlé tout à l'heure de Partage de Midi de Paul Claudel, c'est évidemment sur ce fameux trajet d'Extrême-Orient que se passe l'action de cette pièce. Il faut vraiment relire ça, c'est tellement beau. Au-delà, évidemment, de la nostalgie maritime, il y a surtout une intense réflexion philosophique.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous poursuivons notre traversée à bord de paquebot de légende, Franck.
En compagnie de Gérard Piouffre. Alors, je vous lis nous avons énormément de messages aujourd'hui. Je suis un peu pris par le temps. Mais un petit message, nous dit-on, de la part de tous les admirateurs de Gérard Piouffre sur le forum Titanic, qui sont tous à l'écoute. Vous voyez, vous avez beaucoup d'admirateurs. C'est vrai que vous êtes un conteur extraordinaire et que...
Des admirateurs, je ne sais pas, mais des amis, c'est certain.
Votre livre, le Titanic ne répond plus, notamment. On avait dit qu'on ne parlait pas du Titanic aujourd'hui, mais ça, c'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire.
Je pense qu'on peut quand même dire que il y a un siècle et un mois, jour pour jour, le Titanic était lancé.
Bah oui, il faut le dire. Alors d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure, on n'y reviendra pas, de ces nouveaux paquebots qui aujourd'hui sont plutôt des paquebots de croisière, hein, de divertissement. Il y en a qui font référence explicitement à Titanic, à Normandie, etc. aujourd'hui même.
Alors, tout à fait. J'ai eu l'occasion de faire une croisière l'année dernière à bord du Celebrity Millennium de la compagnie Celebrity Cruise. Et à bord de ce Celebrity Millennium, on a une salle à manger, un restaurant à la carte, qui est celui du paquebot olympique, donc exactement le même que celui du Titanic. Il y a beaucoup de mobilier qui a été récupéré de l'Olympique et la réalisation est tout à fait extraordinaire. À bord du Celebrity Infinity, je n'y ai pas encore été, je n'ai pas encore fait de croisière, mais ça ne saurait tarder. Vous avez la salle à manger, alors je dis pas, c'est pas la salle à manger première classe du Normandie, mais c'est un rappel à cette salle à manger, et les photos que j'ai pu en voir, eh bien, c'est tout à fait extraordinaire. Et le dernier,
on peut la voir, cette salle à manger, alors en détail, dans un film de Sacha Guitry qui s'appelle Les Perles de la Couronne, du reste, qui est très amusant.
D'accord. Et le dernier, eh bien, c'est le Celebrity Constellation, où on reprend la salle à manger du paquebot America, qui était le plus rapide sur l'Atlantique Nord.
Alors, c'est Christiane du Havre qui nous dit qu'entre Normandie et France, il y a eu deux grands paquebots, l'Île de France. Alors, en fait, l'Île de France était antérieure. L'Île de France et le Liberté. Alors, il faut peut-être en dire un mot, effectivement, parce qu'on n'a pas fait du tout un tour exhaustif hein, de cette
Oui, on aura un petit peu de mal à faire le tour exhaustif.
Et Paris aussi, hein, qui a été le premier grand navire stylisé, en quelque sorte, hein, dans l'esprit un peu art déco.
Tout à fait. Bon, peut-être le moment est-il venu de préciser qu'un paquebot, ben, c'est trois choses en même temps. C'est un bateau avec des marins qui le font naviguer, c'est une usine avec des gens dans la salle des machines qui le font avancer, et c'est un complexe hôtelier. Alors là, on parle de ce complexe hôtelier. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on voit en tant que passager. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le reste. Alors l'Île-de-France, puisque je rebondis sur votre question, l'Île-de-France, c'est un paquebot qui avait été surnommé le Saint-Bernard de l'Atlantique, oui, parce qu'il n'arrêtait pas de sauver des passagers d'autres paquebots qui avaient eu des problèmes. Et notamment, il a sauvé les passagers de l'Andrea Doria, qui était en très mauvaise posture. Et alors, il a eu cette distinction, mais qui est à ma connaissance unique. Il a eu, pour sa première arrivée à New York, pour son voyage inaugural, bon, les bateaux-pompes qui projettent de l'eau. Il l'a eu une fois qu'il a été refait, reconstruit, et il l'a eu une troisième fois en ramenant les naufragés de l'Andrea Doria. C'est tout à fait extraordinaire pour ça. Également, petit détail sur ce paquebot, on revient toujours au courrier, il y avait un hydravion qu'on pouvait catapulter à quelques jours de New York et qui permettait de gagner une journée sur le trajet du courrier, ce qui était toujours appréciable.
Alors moi aussi, je reviens au courrier. Michel nous demande, elle voudrait entrer en contact avec l'auteur de l'émission. Alors, sans vouloir m'envoyer de fleurs, il n'y a pas d'auteur dans cette émission, cher Michel, c'est moi-même.
C'est Franck Ferrand.
Voilà, tout simplement. Nous entrerons en contact, promis. Alors, je ne peux pas citer tous les ouvrages, car c'est un véritable phénomène d'édition que cette marine à voile. Non, ces grands navires et ce souvenir des paquebots.
Tout à fait. Alors, dans la mesure où la croisière connaît un développement absolument fabuleux, tout à fait inespéré d'ailleurs, eh bien je pense que tout le monde surfe sur cette
voilà
vague.
Alors deux références en tout cas, préfacées par Philippe Stark, Paquebot France, c'est le catalogue de l'exposition qui en ce moment est au Musée National de la Marine, c'est un très beau livre, et puis cet âge d'or des voyages en paquebot, cette espèce de petit pavé délicieux dans lequel on se plonge à plaisir et qui est signé Gérard Piouffre, c'est aux éditions du Chêne. Allez donc au Musée de la Marine voir l'exposition elle-même, bien entendu. On voulait parler du Georges Philippe Hard, d'Albert Londres et tout ça, sera pour une autre fois. Vous viendrez nous parler aussi du Titanic, promis Gérard Piouffre, au moment du centenaire. Un grand merci à Lorena, à Guillaume, à Nicolas, et nous nous retrouvons demain pour une émission, alors là, vous allez voir, très particulière. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. C'est une émission spéciale SIDAction, nous, qu'on va vous proposer aujourd'hui. Comme vous le savez, le compte à rebours de l'opération SIDAction sera lancé ce soir à 20h dans l'émission de Pierre-Louis Basse. Alors aujourd'hui, nous parlerons de ceux qui vieillissent avec le sida. Ils sont séropositifs depuis des années, voire des décennies. Comment envisager l'avenir physiquement et psychologiquement quand on est atteint du virus? Le VIH accélère le vieillissement. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les personnes infectées? Quels sont les axes de la recherche pour améliorer améliorer le quotidien et le futur des personnes séropositives. Eh bien, écoutez, on va en parler. Donc, vous pouvez témoigner, poser vos questions et vous interroger avec nous au 39-21. Vous pouvez également nous appeler dès à présent. Faustine.europe1.fr pour laisser également tous vos messages écrits, Franck.
Nous n'avons pas le petit ruban à la boutonnière, mais nous le portons moralement. Merci,
Faustine. Dans notre
cœur.
Merci, Franck. À demain.